L'heure de retrouver les informations avec vous, Camille Manière. Bonsoir.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Des signes encourageants dans la lutte mondiale contre l'épidémie de sida, raison d'espérer et de poursuivre le combat aussi dans ce journal avec Lise Verbeek. Des absences remarquées à l'ouverture des états généraux de l'alimentation. Emmanuel Macron et deux ministres ont fait faux bond aux acteurs de la filière agroalimentaire et ce, alors que débutent 5 mois de concertation qui s'annonce âpre, nous dira Anne-Laure Chouin. À défaut de se rendre à Bercy, donc Emmanuel Macron a pris le soin d'appuyer son soutien aux forces armées en pleine crise budgétaire sur la base aérienne d'Istres. Il a réaffirmé tout à l'heure que le budget de la défense serait le seul à augmenter l'an prochain. Quel bilan après le deuxième round de négociations sur le Brexit? Les divergences restent fondamentales entre Londres et Bruxelles. C'est ce que l'on verra avec Pierre Benazet. Et puis avec Pascal Thibault depuis Berlin, nous verrons quelles sanctions économiques l'Allemagne prépare contre la Turquie qui détient toujours un militant des droits de l'homme allemand. À 18h15, Raphaël Bourgois, le grain à moudre.
Eh bien, on parlera de l'Inde. L'Inde est-elle encore la plus grande démocratie du monde? Car il y a une élection présidentielle aujourd'hui, vous le savez peut-être Camille Manière. On en parle avec Jean-Joseph Boileau qui est économiste, Vaijuna Ravane qui est journaliste et Stéphanie Tawa-Lamar-Rewal, professeure de sciences politiques.
Une fois n'est pas coutume, c'est donc avec des nouvelles encourageantes que nous ouvrons cette édition. Elles concernent la lutte contre le sida qui semble bien porter ses fruits à travers le monde. Les décès liés au VIH ont diminué de moitié depuis 2005. Plus de la moitié des personnes infectées ont accès à un traitement. Ces bonnes nouvelles, on les retrouve dans un rapport publié par l'ONU Sida, un rapport que vous avez consulté. Bonsoir Lise Verbeek.
Bonsoir.
Et alors qu'une conférence mondiale de chercheurs sur le virus s'ouvre demain à Paris, l'ONU se félicite donc de voir que son action paye à travers le monde.
Le travail de prévention, les dépistages, l'accès à un traitement moins cher, les avancées de la médecine, ce sont autant de facteurs qui expliquent les progrès dans la lutte contre le sida. Il y a quelques années, Michel Sidibé, le directeur d'ONU Sida, était considéré comme un utopiste quand il évoquait son objectif que 90% des personnes vivant avec le VIH soient sous traitement d'ici 2020. Aujourd'hui, cet objectif ne paraît plus impossible à réaliser.
On voit aujourd'hui une baisse des nouvelles infections en Afrique australe qui constituait un défi terrible pour nous. Imaginez, il y a quelques années, on pensait que des pays comme le Botswana, le Swaziland n'auraient même pas existé. Aujourd'hui, ils ont 95%, je dis, des mères enceintes infectées par le VIH qui sont sous traitement. C'est extraordinaire. Il n'y a pratiquement plus de bébés qui naissent avec le sida dans ces régions-là.
Mais il reste des zones où la situation est préoccupante, comme en Afrique de l'Ouest. Le docteur Aliou Sila a créé la première structure de prise en charge des malades au Mali en 94. Même si les chefs d'État commencent à engager des programmes nationaux, il faut aller encore plus loin, selon lui.
Un des facteurs qui est important aussi, c'est l'implication du monde communautaire, des chercheurs et de ceux qui fabriquent les médicaments. Il faudrait qu'on puisse assurer que l'Afrique, l'accès à ces médicaments-là, la fabrication de ces médicaments, qu'elle puisse se faire en Afrique où on va avoir des médicaments à moins de coût, accessibles et vraiment qui va faciliter la vie des patients.
Autre point noir dans la progression de la pandémie, l'Europe de l'Est et l'Asie centrale. En Russie, par exemple, les nouveaux cas d'infection ont augmenté de 75% en 6 ans.
Voilà, on voit donc qu'il reste encore des raisons de se mobiliser contre l'épidémie de sida. Merci Lise Verbeek. Une épidémie, on le rappelle aussi, qui a tout de même tué 1 million de personnes l'an passé à travers le monde. Et j'ajoute aussi que l'OMS, de son côté, alerte sur le fait que dans les pays du Sud, les cas de patients qui développent des résistances aux effets des médicaments augmentent. Ça pourrait entraîner à terme de nouveaux décès et des contaminations supplémentaires. Un président de la République qui se décommande le matin même, 2 ministres sur 4 annoncés qui brillent par leur absence. Tout cela n'a pas empêché les états généraux de l'alimentation de s'ouvrir toute la journée à Bercy. Une grande concertation qui va se poursuivre jusqu'au mois de novembre. Elle s'est fixée pour ambition de restructurer la filière agroalimentaire française pour à la fois permettre aux agriculteurs de vivre de leurs revenus et promouvoir un modèle de consommation plus sain et plus durable. Dans la forme, ça va se passer autour de 14 ateliers thématiques réunissant tous les acteurs de la filière. Pour ce qui est de mettre tout le monde d'accord, c'est une autre affaire, Anne-Laure Chouin.
Première douche froide ce matin pour tous les acteurs réunis à Bercy. L'absence de celui qui avait imaginé ces états généraux, Emmanuel Macron, que le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, tente d'excuser comme il peut.
C'est une question d'agenda. Le président de la République viendra fin septembre pour clôturer la fin du premier chantier, ouvrir le deuxième. Vous connaissez, comme moi, l'agenda d'un président de la République. C'est toujours éminemment compliqué à gérer.
Compliqué aussi de faire converger les volontés, tant chacun ce matin est venu avec avec ses propres revendications. Faire confiance aux acteurs pour élaborer un agenda des solutions, comme le propose le ministre de l'Agriculture, Laurent Pinatel, de la Confédération paysanne, n'y croit pas beaucoup.
C'est pas notre conception. Les bonnes relations entre les acteurs, la concertation, le compromis, comme ça a été dit plusieurs fois ce matin, pourquoi pas? Mais de toute façon, au bout d'un moment, il faut que le législateur, il se saisisse de l'ensemble des travaux des États généraux de l'alimentation pour produire une loi. Et au cœur de la loi, il doit y avoir le revenu des paysans. Puis alimentation de qualité. On peut imaginer que ces États généraux doivent être la préfiguration de ce que doit être la position française pour les prochaines négociations de la PAC.
De la PAC et plus généralement de l'Europe, il n'a pas beaucoup été question. Pourtant, aujourd'hui, les premiers débats se sont concentrés sur la répartition des revenus entre les acteurs français de la chaîne agroalimentaire. Faux débat, pense le représentant de la distribution, Jacques Cressel.
Les marges des distributeurs, elles sont les plus basses qu'on ait jamais eues. Elles ont été divisées par deux. La marge du distributeur aujourd'hui, c'est 0,8%. Donc le sujet, ça n'est pas de répartir les marges. Ça ne sert à rien. Le sujet, c'est de faire en sorte de créer de la valeur. Comment faire en sorte qu'il y ait plus d'argent globalement? Ça veut donc dire être capable de demander aux consommateurs de payer plus cher pour des produits de meilleure qualité.
Manger mieux au meilleur prix pour tous les acteurs, tout le monde est d'accord. Sur les solutions pour y parvenir, la route est encore longue.
Anne-Laure Chouin, les bons comptes font les bons amis. C'est donc en leur parlant d'argent en augmentation de budget que Emmanuel Macron a donc tenté de reconquérir le cœur des militaires aujourd'hui. Il était en déplacement sur la base aérienne d'Istres après le coup de Trafalgar d'hier, la démission du chef d'état-major Pierre de Villiers. Le chef de l'État, mais aussi chef des armées et donc chef des budgets publics, a tenu à rassurer sur la rallonge budgétaire qui sera accordée l'an prochain aux armées.
Cette augmentation du budget, dans une année où aucun budget autre que celui des armées ne sera augmenté, est inédite. Et je veux que vous en mesuriez l'importance. Parce qu'elle est la cohérence même avec nos engagements. Parce que durant les dernières années, il n'y a jamais eu une telle augmentation d'1,8 milliard d'euros du budget des armées. Et je le redis, cela n'a de sens que parce que cela permettra de déployer une vraie stratégie, une vraie réflexion capacitaire, une vraie réflexion sur l'ensemble des théâtres d'opération où vous êtes engagés et la révision qui sera présentée à l'automne. Et c'est aussi pour cela que j'ai demandé sous l'autorité de la ministre à ce qu'une réflexion en profondeur que le CEMA aura à me présenter soit conduite là aussi pour l'automne, qui permettra de réviser les modalités de l'opération Sentinelle.
Emmanuel Macron, qui a également devant les militaires réunis à Istres, réaffirmé son objectif de porter le budget de la défense à 2% du PIB d'ici 2025. Pour cela, il va falloir l'augmenter d'environ 15 milliards d'euros en 8 ans. L'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire, ça se précise pour les trains express régionaux. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, veut que les régions puissent confier l'exploitation des lignes TER à d'autres opérateurs que la SNCF, et ce, avant la date butoir de 2023 fixée par l'Europe. Une personnalité chargée de négocier ce dossier épineux avec les régions et les syndicats sera nommée dans les prochains jours. Et puis c'est la suite logique de l'enquête préliminaire qui visait le MoDem et ses assistants parlementaires au Parlement européen. Le parquet de Paris vient d'ouvrir une information judiciaire pour recel d'abus de confiance. Un juge va donc être nommé pour instruire l'enquête. Les rues de Caracas étaient inhabituellement calmes ce matin. La capitale vénézuélienne et tout le pays, en fait, immobilisé dans une grève nationale lancée par l'opposition. L'opposition qui demande plus que jamais l'organisation d'élections présidentielles pour chasser du pouvoir le chaviste Nicolas Maduro. Difficile encore de mesurer l'ampleur du mouvement. De nombreux partisans de l'opposition craignent des sanctions s'ils se mettent en grève. L'ordre a été donné aux fonctionnaires en particulier d'ignorer donc ce mot d'ordre de grève. Quatre jours de négociations et le constat de divergence fondamentale qui persiste entre Bruxelles et Londres. Le deuxième round de négociations sur le Brexit s'est terminé aujourd'hui. Le Britannique David Davis et l'Européen Michel Barnier avaient promis qu'ils allaient enfin entrer dans le vif du sujet sur les conditions du divorce. En fait, ils ont plutôt défriché le terrain et ils sont tombés sur de nombreuses divergences à régler. Les détails depuis Bruxelles avec Pierre Benazet.
La première pierre d'achoppement est le sort des quelque 3 300 000 citoyens européens vivant au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique reste sur la ligne avancée par Theresa May. Elle consiste à prévoir une loi nationale que devra voter la Chambre des communes. Ce n'est pas du tout ce que préconisent les Européens. Ils veulent que les droits des citoyens soient gravés dans le marbre et garantis par l'accord que signeront les deux parties avant le départ du Royaume-Uni. Les Européens veulent d'ailleurs que ces droits soient contrôlés par la Cour de justice de l'Union européenne, comme pour tout le reste du droit européen. Et la juridiction de la Cour de justice de l'UE, on le sait, est inacceptable pour les partisans du Brexit. Deuxième point de contentieux majeur, l'enveloppe financière. Le négociateur britannique a reconnu que son pays devrait faire face à des engagements financiers, mais le montant n'en a pas été évoqué, même si on parle au moins de 50 milliards d'euros. Et David Davis ne mentionne que la période pendant laquelle le Royaume-Uni est encore membre de l'UE, pas les engagements à plus long terme, dont les Européens considèrent pourtant le Royaume-Uni redevable. Le point le plus facile de cette semaine de négociation aura sans doute été la frontière intra-irlandaise, qu'Européens et Britanniques sont d'accord pour vouloir maintenir ouverte. Mais là encore, rien n'est simple, car tout dépendra du futur accord commercial entre l'UE et le Royaume-Uni après le Brexit. Et cette négociation-là ne semble pas prête de commencer, vu le peu de progrès sur le reste.
Pierre Benazet, comme une provocation envoyée à la face de Bruxelles, c'est le Parlement polonais dominé par le parti conservateur PiS qui a adopté tout à l'heure une loi réformant la Cour suprême, une loi critiquée par la Commission européenne qui jugeait hier que l'état de droit est menacé en Pologne par ces réformes en cours du système judiciaire. L'opposition polonaise, elle, crie au coup d'État. Et l'Allemagne qui précise ses menaces face à la Turquie. Au cœur des tensions diplomatiques de ces derniers jours, il y a la détention d'un militant allemand des droits de l'homme par les autorités turques, mais le contentieux semble plus ancien entre les deux pays. Face à ce qu'elle considère comme une dérive autoritaire d'Ankara, Berlin sort de sa réserve et menace de sanctions économiques sur le tourisme et sur les investissements. Pascal Thibault est le correspondant de France Culture en Allemagne.
Berlin a longtemps fait le gros dos et réagi avec mesure aux attaques d'Ankara, comme les comparaisons avec le régime nazi. L'Allemagne ne voulait pas envenimer un peu plus les relations bilatérales et accessoirement ne pas risquer de remettre en cause l'accord entre l'Europe et la Turquie sur les réfugiés. L'arrestation en début de semaine de militants des droits de l'homme à Istanbul, dont un Allemand, est venu à bout de la patience de Berlin. Le ministre des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel, a interrompu ses vacances pour faire une déclaration marquant un durcissement à l'égard d'Ankara. Sa prise de position a été arrêtée avant qu'Angela Merkel. Il reproche à la Turquie de tourner le dos aux valeurs européennes et a dénoncé des accusations absurdes de terrorisme, notamment contre le militant allemand des droits de l'homme, mais aussi contre le correspondant du quotidien conservateur Die Welt. Berlin veut frapper la Turquie là où cela fait mal financièrement. Les garanties publiques pour des investisseurs allemands sont sur la sellette. L'Allemagne veut évoquer avec ses partenaires européens les aides accordées à Ankara. Et les recommandations du ministère des Affaires étrangères pour les Allemands se rendant en Turquie, également les touristes, sont durcies en raison des risques encourus. Une évolution qui pourrait frapper le tourisme alors que de nombreux Allemands passent leurs vacances sur la Riviera turque.
Pascal Thibault à Berlin pour France Culture. Aux États-Unis, Jeff Sessions ne compte pas démissionner. Le ministre de la Justice a été publiquement désavoué hier par Donald Trump, qui a dit regretter de l'avoir nommé. Il lui reproche en fait de s'être récusé dans l'enquête du FBI sur les soupçons d'ingérence russe dans la campagne présidentielle de l'an dernier, une affaire dans laquelle Sessions est personnellement visé. Je compte bien poursuivre ma mission aussi longtemps que cela paraîtra adapté à la situation. C'est la mise au point, donc tout à l'heure, du ministre de la Justice américain. Aux frontières de l'art et de la diplomatie, la ministre de la Culture d'Israël qui demande à son homologue française de faire interdire une pièce de théâtre, une pièce qui vient d'être donnée pour la première fois au Festival d'Avignon, une pièce surtout qui met en scène les dernières heures du djihadiste toulousain Mohamed Merah. On s'en souvient, en 2012, il avait assassiné 7 personnes, dont 2 enfants et un professeur dans une école juive. « Moi, la mort, je l'aime comme vous aimez la vie », c'est le nom de cette pièce qui fait donc polémique entre Avignon et Tel Aviv. Cécile de Kervas-Doué.
Oui, l'argument de la ministre israélienne, c'est de dire que cette pièce est, je cite, « une forme terroriste de propagande déguisée en exercice de liberté d'expression qui encouragerait, dit-elle, le pardon et la sympathie vis-à-vis de Mohamed Merah ». Un argument qui reprend peu ou prou ceux de certains avocats des familles de victimes qui voulaient la semaine dernière, on s'en souvient, faire annuler la représentation de la pièce à Avignon. Pour l'Observatoire de la liberté de création, c'est la preuve finalement que l'hystérie s'est invitée dans ce débat. Agnès Tricouard est la fondatrice de l'Observatoire. Elle est aussi l'avocate de David Cassimi, l'auteur de la pièce.
L'Observatoire lutte depuis 15 ans contre des gens qui, sans regarder les œuvres, sans les voir, sans en prendre connaissance, vont prétendre publiquement qu'elles disent ci ou ça. L'extrême droite fait ça depuis des années et des années. Et cette querelle, elle a commencé dans les années 1850. L'art s'est toujours intéressé aux gens qui passent à l'acte. En 1870, Zola écrit un texte pour dire que les journalistes ont tous les droits, ont le droit de raconter n'importe quel fait divers dans tous les détails, mais que dès qu'un auteur s'attaque au même sujet, on lui oppose qu'il ne doit pas refléter la réalité telle qu'elle est, parce que la réalité est trop sordide. Une œuvre, ça n'est pas un discours direct adressé à quelqu'un. Donc, il faut arrêter de tout confondre. Ou alors, il faut vider une partie de nos bibliothèques, de nos vidéothèques, etc., etc. Ça veut dire que toute la littérature policière qui parle des serial killers, il faut arrêter, parce que ça va encourager au serial crime, etc., etc. Vous vous rendez compte de l'inanité totale de ce raisonnement.
Et l'Observatoire, qui rassemble plusieurs organisations du spectacle, demande donc à la ministre de la Culture française qu'elle s'exprime au plus vite, de manière claire et franche, pour protéger la pièce.
Cécile de Kervas-Doué, merci à vous. La météo, enfin, retour d'un temps sec ce soir qui annonce une matinée ensoleillée pour demain, mais une nouvelle perturbation nous arrivera de l'Atlantique. Au lever du jour, les températures s'échelonneront entre 15 et 20 degrés, 25 même sur la Côte d'Azur. Ce journal était réalisé par Jean-François Braun. À 22h, vous retrouverez Stanislas Vazac.